mais c'est peut-être juste pour venir sur accueillir son imperfection et non pas y remédier. Si vous pouvez peut-être un petit peu plus développer.
Alors, si je vois, par exemple, que j'ai une tendance à avoir besoin de quelque chose. Par exemple, on va prendre une dépendance. Alors, il y a des dépendances alcooliques, ça c'est embêtant. Puis il y a les dépendances, par exemple, je ne peux pas m'empêcher d'allumer la télé quand je rentre chez moi. Bon, vous voyez, des addictions très très différentes qui n'ont pas les mêmes impacts. En fait, si j'en ai un peu conscience, si j'en ai pas conscience, je m'interroge pas. Bon, puis je continue comme ça et puis je me laisse descendre dans un état de dépendance par rapport à autre chose. Si j'en prends conscience, ça peut être bien comme ça peut être néfaste. Parce que quand j'en prends conscience, je me dis « Oh, c'est nul ce que je fais ». À partir du moment où je me dis « C'est nul », c'est foutu. Ce que je fais n'est pas nul, c'est une heureuse façon de compenser quelque chose qui ailleurs est en souffrance. Donc, je ne vais pas maîtriser ce travers. Je vais écouter, aussi bien si j'ai besoin de regarder la télé que si j'ai besoin de boire, je vais écouter en quoi cela est tellement important pour moi. Car derrière cela, il y a une part de moi qui m'attend. En fait, derrière ce qui a l'air d'être un travers, c'est juste une compensation ou un symptôme qui me dit « Coucou, tu sais, il y a une part de moi là qui fait coucou, qui dit « Est-ce que tu peux venir me chercher parce que ça fait longtemps que je t'attends ?» Que ce soit une part de moi-même qui ait vécu un événement il y a 3 ans, il y a 10 ans, ou que ce soit quand j'étais enfant, voire en situation prénatale, il y a même des parts de soi qui, dans le transgénérationnel, sont des choses qui ont été vécues par une autre personne, par un ascendant. Je vais vous donner un exemple. Une personne, un jour, j'ai donné cet exemple dans des articles de mon site, j'ai un site internet, il suffit de taper mon nom sur un moteur de recherche, vous tomberez dessus, dans lequel j'explique le cas d'une personne qui me dit « Je suis très embêté parce que j'ai une angoisse, je ne peux pas m'éloigner de la ville où j'habite de plus d'un ou deux kilomètres sans être prise de peur panique au point de rester sur le bord de la route. » Et je lui demande s'il lui est déjà arrivé d'avoir une très grande peur, parce qu'avant, je lui demande quelle est la nature de cette peur, son ressenti. Parce que le premier truc, c'est de vouloir maîtriser pour s'en sortir. Je lui demande plutôt de l'écouter, d'écouter ce ressenti qu'elle a. Elle me dit, c'est comme si je ne pourrais plus jamais rentrer à la maison. Et ça, c'est très intéressant comme façon de le formuler. Et au lieu d'essayer de voir ce qu'il y a de mauvais dans ce raisonnement, moi j'ai confiance en elle. Je lui demande, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir cette peur dans votre histoire, une peur de panique de ne pas pouvoir rentrer à la maison? Elle me dit, non, je n'ai pas l'impression. Alors ça c'est rapide, parce que c'est un échange assez rapide. Ce n'était pas une consultation, c'était une conversation. Et je lui demande si c'est arrivé à l'un de ses parents. Et là d'un seul coup ça tilte, elle me dit, bah oui, ma mère, quand elle avait 9 ans, quand elle était enfant, sa mère est décédée, son père n'était pas très fiable, elle a été retirée du foyer, elle a été placée. C'est comme si à chaque fois qu'elle avait peur, c'était pas quelque chose à maîtriser, mais l'enfant de 9 ans qui était sa mère, qui restait à entendre, car personne ne l'avait écouté. Donc ça n'est pas de la maîtrise, mais de la rencontre. Ça change beaucoup le regard sur les symptômes que nous pouvons avoir. C'est une démarche de rencontre et non pas une démarche de pouvoir sur un truc mauvais. C'est plutôt une démarche de rencontre sur une part de l'être infiniment précieux qui n'a jamais été entendu depuis ce temps. Le nombre de fois dans mon cabinet, je vois des personnes faire des émergences comme ça. C'est extrêmement touchant, je suis profondément touché quand je vois cela. C'est comme si je voyais un être jusque-là toujours au cachot, d'un seul coup avoir le droit de venir au jour et à l'air et pouvoir prendre son souffle. Ce n'est surtout pas du combat. Par contre, le symptôme ou le mal-être ou la pulsion de violence disparaît aussitôt que ce qui devait être entendu est entendu. Donc après, son symptôme étant parti, elle a pu sortir sans cette crainte, sans cette angoisse. Je pense, un dernier exemple par rapport à ça, une personne me pose cette question apparemment anodine. Je suis embêté parce que je suis agressif. Dès qu'on me parle, j'ai envie de rentrer dans l'art. C'est quelqu'un qui travaille dans un service d'accueil, ce qui était donc, ça c'est un certain concept des ressources humaines, de mettre quelqu'un comme ça à un poste comme ça. Enfin, bon, et elle me dit, j'aimerais bien quand même y remédier. Je lui demande, qu'est-ce que vous ressentez quand on vous adresse la parole? Elle me dit, j'ai l'impression qu'on va me demander plus de choses que je peux en faire. Ce qui n'est pas très original dans un monde professionnel. Et je lui demande si dans sa vie, lui est arrivé qu'on lui demande plus de choses qu'elle peut en faire, mais de façon poignante. Elle me dit, mais oui, j'étais gamine, à 5 ans, je me suis occupée de mes frères et sœurs parce que ma mère est en hôpital psychiatrique. Je lui demande si elle sait pour quelle raison sa mère est en hôpital psychiatrique. Et là, elle est assez bouleversée. Et elle me dit, en fait, quand elle était petite, son père a abusé d'elle. Donc on fait un cheminement thérapeutique pour essayer d'entendre cet enfant qui était la mère quand le père a abusé d'elle. Puis elle me dit, oui, mais mon grand-père, il m'a fait la même chose, moi, un jour. Alors on écoute l'enfant qu'elle était, qui était abusée, on écoute l'enfant qui était la mère, qui était abusée, et une fois que ça s'est fait, la violence disparaît. En réalité, à chaque fois qu'elle sentait cette réaction de violence, c'est comme si cette part de sa vie l'appelait. Alors, pour faire court et rapide, par rapport à ces deux situations de vie qui sont des situations quand même tragiques et extrêmement douloureuses, notez bien que ces situations ne sont dramatiques que par l'événement. L'être qui s'y trouvait est infiniment précieux. Et ne mélangeons pas les êtres et les circonstances, car si on mélange les êtres et les circonstances, quand on dit c'est horrible en pensant à ça, c'est qu'on est en train de mélanger ce qui est arrivé avec celui à qui c'est arrivé. Or, ce qui est horrible, c'est ce qui est arrivé, ce n'est pas celle qu'elle était. Ça, c'est très important. On ne mélange pas les choses et les êtres. C'est la façon de s'en sortir. Si on mélange les choses et les êtres, on finira par mépriser cette zone de vie et celle qui s'y trouvait aussi. Et donc, le symptôme va plutôt s'ancrer.